RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
L'émission en français avec Inès Azagra et Guillermo Bravo.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue un jour de plus à l'émission en français sur Radio Exterior d'Espagne.
Si fuera más guapa y un poco más lista, si fuera especial, si fuera de revista, tendría el valor de cruzar el vagón.
Nous écoutons les cloches de la Puerta del Sol pendant la matinée du lundi 11 mars 2024.
L'Espagne, mais aussi l'Union européenne, rend hommage solennel lundi aux 192 victimes de 17 nationalités assassinées il y a 20 ans, jour pour jour, à Madrid, dans des attentats à la bombe qui marquent le début des attaques islamistes de masse en Europe. Le 11 mars étant prévu la journée européenne de commémoration des victimes du terrorisme. Nous écoutons un extrait de l'intervention du roi d'Espagne, Felipe VI, en remerciant la réponse solidaire de la citoyenneté dans un moment si tragique.
Aquel jueves 11 de marzo, Madrid fue un verdadero ejemplo de solidaridad que continuamos admirando 20 años después. Los profesionales de los servicios públicos, de emergencias, sanitarios, bomberos, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de la ciudad, de la comunidad, nacionales y también tantos ciudadanos, todos dieron lo mejor de sí mismos para ayudar y atender a los heridos y a los familiares de las víctimas, la mayoría trabajadores y estudiantes de múltiples nacionalidades.
Y entonces ocurre, despiertan mis labios, pronuncian tu nombre tartamudeando. Supongo que piensas que chica más tonta y me quiere.
C'est pour cette raison que nous avons voulu préparer une émission spéciale accompagnée de notre correspondant à Paris, le journaliste Antonio Delgado. Il nous raconte en première personne comment il a vécu ce moment depuis l'étranger.
À la technique, Elena Trapero, et au micro et dans vos oreilles, Inés Azagra et Guillermo Bravo. Et à la production, comme toujours, Cristina Dorado.
Vous écoutez Jueves, une chanson interprétée par la chanteuse espagnole La Oreja de Van Gogh, qui raconte l'histoire d'amour qui a lieu pendant les explosions du 11 mars.
Me tomas la mano, llegamos a un túnel que apaga la luz. Te encuentro la cara, gracias a mis manos, me vuelvo valiente y te beso en los labios. Dices que me quieres y yo te regalo el último soplo de mi
Passons au journal de l'actu sur Radio Extérieure Espagne.
Où que vous soyez.
Ce jeudi 11 mars 2004, peu après 7h30 du matin, à l'heure de pointe, 10 engins explosent en l'espace de quelques minutes à bord de 4 trains de banlieue dans la grande gare d'Atocha, située au cœur de Madrid ou à proximité. La capitale est immédiatement plongée dans le chaos alors que la solidarité s'organise. Ainsi, des taxis se mobilisent pour aider à transporter les blessés. Il y en a à peu près 1900 vers les hôpitaux. Nous écoutons à Bérin, la fille d'une des victimes mortelles.
Era el mejor padre que pude haber tenido. Me encantaría que estuviera aquí, que viera el primer libro publicado, que me acompañara al altar este mes de septiembre y que se aliara con mi futuro marido para quererme y sacarme de quicio a partes iguales.
Marisol, la mère de Rodrigo, remercie la mémoire et les hommages, mais elle explique aussi au micro de Radio Nationale que c'est très dur, car émotionnellement, c'était très compliqué d'en parler.
Siempre son duros los aniversarios. Parece que cuando son redondos, se acuerdan más de nosotros. Y se hacen más duros porque emocionalmente nos cuesta un esfuerzo hablar de ello, pero también agradecemos la memoria.
Alberto Ruiz Gallardón, maire de Madrid à l'époque, souligne le rôle des services d'urgence sanitaire et la solidarité de tous les citoyens. Il a voulu recalquer qu'à Madrid n'est pas une ville raciste depuis. Malgré les événements survenus, Ruiz Gallardón confirme que Baltasar Garzón lui avait communiqué que les responsables n'étaient pas le groupe séparatiste basque ETA.
Me llamó a las 9:30 de la mañana, yo cuando me llama, y en ese momento yo cito la frase literal, que es fuerte, pero es como fue. Le dijo Baltasar, qué hijos de puta estos de ETA. Y Baltasar me dice, creo que no ha sido ETA, Alberto.
Et le propre Baltasar Garzón explique les raisons pour lesquelles il avait rejeté l'idée que les responsables étaient le groupe armé de l'ETA.
Ni por los objetivos, ni por la falta de aviso previo, había aparecido una furgoneta Kangoo en Alcalá y que yo le pregunté que si tenía matrículas dobladas, que si había bomba trampa, en fin, las preguntas lógicas ante un atentado de ETA. Me dijo que no. Cuando ya el explosivo se supo que era goma 2, evidentemente cualquiera que nos movíamos en el ámbito de la investigación de los delitos de terrorismo sabíamos que ETA no utilizaba ese explosivo desde hacía más de 25 años.
Nous nous trouvons encore en alerte 4 sur 5 en matière d'alerte terroriste. Le ministre de l'Intérieur, Fernando Grande Marlaska, affirme que les forces de sécurité de l'État sont tout à fait préparées, mais que le risque zéro n'existe pas.
Que ha ido mudando con el tiempo, pero que podemos decir y trasladar a la ciudadanía que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad están diciendo siempre que el riesgo cero no existe, están perfectamente preparadas, formadas.
Pendant la cérémonie d'hommage aux victimes du 11 mars, un colonel de l'armée se dit préoccupé par les dommages collatéraux de la guerre à Gaza après les attaques terroristes du 7 octobre.
Desde el 2015 estamos en un nivel dentro del plan de prevención y protección antiterrorista en nivel 4. En segundo lugar, nos identifica que hay muchos acontecimientos o que ha habido acontecimientos que efectivamente nos generan esa preocupación y entre ellos el que comenta, ¿no? La guerra después del ataque terrorista del 7 de octubre en Israel, la guerra, el conflicto de Israel, desde luego ha generado un victimario, ha generado un argumentario tremendamente positivo para los terroristas para generar ese elemento de incitación y perversión.
Un país para todos. ¡Viva Portugal!
Au lendemain des législatives qui ont mis fin à 8 ans de règne socialiste, les Portugais se retrouvent lundi avec un parlement où la droite modérée aura du mal à tenir sa promesse de former un gouvernement stable sans s'appuyer sur les populistes qui ont quadruplé leur nombre de sièges.
La nouvelle poussée du parti d'extrême droite de Chega, qui signifie AC, lidéré par André Ventura, annoncée par les sondages, s'est confirmée lors du scrutin de dimanche, marqué par les taux de participation le plus élevé en près de 30 ans.
O Chega ultrapassou historicamente 1 milhão de votos em Portugal.
En tout cas, à 3 mois des européennes, les électeurs portugais ont confirmé que l'extrême droite progresse à travers le vieux continent.
Começando já pelo fim, eu assumi 2 compromissos na campanha eleitoral.
L'Alliance démocratique de centre-droite, emmenée par Luis Montenegro, a pour sa part dû se contenter d'une très courte victoire face au Parti socialiste qui s'est rangé derrière Pedro Nuno Santos après la démission début novembre du Premier ministre sortant, Antonio Costa.
La bande de Gaza en proie à une grave crise humanitaire reste sous le feu de l'offensive israélienne contre le Hamas en perspective de trêve au commencement lundi du mois de jeûne musulman du Ramadan.
Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé lundi un nouveau bilan de 31 112 personnes tuées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre l'Israël et le mouvement islamiste palestinien.
Oppenheimer domine les Oscars, Anatomie d'une chute primée.
La déflagration annoncée a bien eu lieu. Oppenheimer a remporté dimanche l'Oscar du meilleur film ainsi que 6 autres statuettes lors d'une belle soirée pour le film français Anatomie d'une chute, récompensé pour son scénario. La cérémonie des Oscars a aussi offert un dimanche une série de moments graves ou décalés entre plaisanteries sur Donald Trump, évocation de la guerre à Gaza et l'incontournable Barbie.
Christopher Nolan, auteur de blockbusters audacieux capable de remplir les salles malgré ses intrigues très cérébrales et souvent inspirées de la physique quantique, a enfin vu son talent reconnu récompensé par l'Oscar du meilleur réalisateur dimanche pour Oppenheimer.
Movies are just a little bit over 100 years old. I mean, imagine being there 100 years into painting.
Le film Oppenheimer a été acclamé dimanche aux Oscars, mais à Hiroshima, la ville japonaise dévastée par la première bombe atomique en 1945, le film sur le créateur de cette arme a été accueilli avec circonspection.
L'Ukraine a salué lundi son premier Oscar attribué à 20 jours à Mariupol, un documentaire sur le siège de cette ville ukrainienne au printemps 2022 par l'armée russe.
Devenu célèbre grâce à la série Peaky Blinders, l'acteur irlandais Cillian Murphy a remporté dimanche l'Oscar au meilleur acteur pour sa interprétation du père de la bombe atomique.
We made a film about the man who created the atomic bomb and for better or for worse, we're all living in Oppenheimer's world, so I would really like to dedicate.
Elle va pouvoir ajouter une deuxième statuette sur ses étagères. Emma Stone a confirmé dimanche son statut de favorite d'Hollywood en remportant de nouveau l'Oscar de la meilleure actrice grâce à son rôle dans Pauvre créature du réalisateur Yorgos Lanthimos.
Oh boy, this is really overwhelming. Sorry.
La zone d'intérêt, qui a reçu l'Oscar du meilleur film international, montre la banalisation de l'horreur avec un portrait du commandant Dozovich et sa famille goûtant au plaisir de la vie dans leur maison de l'autre côté du mur du camp d'extermination. Jonathan Glazer, réalisateur du film, a livré en quelques mots un plaidoyer contre l'occupation israélienne des territoires palestiniens. Nous refusons que notre judaïté et l'Holocauste soient détournés pour une occupation qui a causé tant de souffrances pour autant d'innocents, a-t-il lancé. Que ce soit des victimes dans Israël le 7 octobre ou l'attaque en cours à Gaza, ce sont toutes des victimes d'une déshumanisation.
Right now we stand here as men who refute their Jewishness and the Holocaust being hijacked by an occupation which has led to conflict for so many innocent people. Whether the victims of October the...
Côté Espagne, la Société de la Neige du réalisateur Bayona et Robot Dreams de Pablo Berger n'ont pas remporté la statuette ni à meilleur film étranger ni à meilleur film d'animation.
Moment premier et très attendu de la soirée, Ryan Gosling a interprété en costume rose à paillettes un flamboyant I'm Just Ken, extrait de la bande son et chanson narcissique qui se moque en creux de la masculinité toxique.
Radio Exterior de España.
Le 11 mars 2004, 10 bombes faisaient exploser 4 trains dans la station de Atocha, en plein cœur de Madrid. 192 personnes mouraient et près de 2000 étaient blessées à cause des déflagrations. Presque 3 ans après les attentats du World Trade Center, le djihadisme d'Al-Qaïda frappait l'Europe. Ces attentats, connus en Espagne sous l'appellation du 11M ou le 11M, sont les plus sanglants survenus en Europe au 21e siècle.
J'ai reçu des éclats de verre. Il y a eu 2 explosions. Alors un des 2 wagons a été réduit en un tas de ferraille. Et après je suis sorti.
Il y avait des morts, des blessés sanguinolents. Beaucoup de gens comme moi qui allaient à l'école. Certains avaient le...
L'Espagne, commotionnée, se lançait dans les rues pour demander des réponses.
Sont 3000, 4000 personnes, non lo podemos contar.
Antonio Delgado est le correspondant de Radio Nationale d'Espagne à Paris. En 2004, il était à Bruxelles, au cœur de l'Europe. Nous sommes maintenant en appel téléphonique avec lui. Bonjour Antonio et tout d'abord merci d'avoir accepté l'invitation de l'émission en français.
Bonjour, c'est toujours un plaisir d'être avec vous et de parler français aussi.
Alors ma première question, c'est où étiez-vous le 11 mars 2004 et qu'est-ce que vous étiez en train de faire lors de l'attentat ?
Moi, j'étais à ma maison à Bruxelles. J'ai travaillé à l'époque déjà pour Radio Nationale d'Espagne, mais aussi pour des autres sociétés journalistiques. Et à ce moment-là, j'étais à ma maison. Je n'avais pas commencé encore ma journée de travail. Et je me souviens d'avoir entendu à la radio et puis dans 2 minutes à la télé les événements et je me souviens de cette sensation de froideur, de... même si l'Espagne c'était un pays déjà habitué au terrorisme, mais de comprendre tout de suite que ça c'était quelque chose qui n'était même pas normal pour notre standard de souffrance.
Ouais. Oui. En tant que journaliste espagnol destiné à l'étranger, et d'après votre avis, comment est-ce que l'Europe a vécu cet attentat ?
Au début, avec une vague de solidarité, je dirais très grande, je me souviens aussi, et c'était une des images de ces jours-là, il y avait une session plénière au Parlement européen, et il y a eu, je me souviens plus de son nom, mais il y a eu un député, et, je pense que c'était français peut-être, ou peut-être de Luxembourg, je ne me souviens plus, qui a embrassé une députée espagnole qui était en larmes pendant la minute de silence, et ça a été une des images qui représentait un petit peu et les sentiments des suffrages partagés par toute l'Europe, parce que même si on avait les souvenirs très récents à l'époque des attaques à New York et Washington, on ne connaissait pas une tragédie de cette dimension-là et en Europe de façon récente. Il faudrait se remonter aux années 70, mais en Europe, il n'y avait pas non plus cette sensation. Malheureusement, après, ça a été régulière, mais à ce moment-là, ça a été, je dirais, un sursaut partout en Europe, pas qu'en Espagne.
Et à 3 jours des élections présidentielles, les attaques du 11 mars ont bouleversé la campagne politique des deux partis avec des options de gouverner, le Parti socialiste et le Parti populaire. Ce dernier était au pouvoir sous la direction de José María Aznar.
Ils n'ont toujours pas revendiqué l'attentat, mais l'explosif utilisé a été identifié, du titadine, de la dynamite, habituellement utilisée par ETA.
Aznar évoque initialement la possibilité que ce soit la bande terroriste nationale de l'ETA pour finalement faire de cette thèse la version officielle. Vous rappelez-vous de ce que vous avez pensé en l'écoutant ?
Bon, si vous voulez, moi, au début, j'ai cru aussi que c'était l'ETA. Il n'y avait pas de raison évidente pour douter parce qu'à ce moment-là, il faut se souvenir que quelques jours avant, il y avait eu on a arrêté des membres de l'ETA qui transportaient des explosifs dans un train. Donc, au début, il y avait une certaine cohérence, l'échelle de la massacre, c'était pas habituel pour l'ETA. Après, les doutes sont commencés et tout le monde a douté. Moi, pareil, je le voyais de Bruxelles. Mais c'est peut-être intéressant de dire que cette controverse est arrivée aussi à Bruxelles parce qu'il y a eu les efforts du gouvernement, dans ce moment-là, du gouvernement de la droite, impliquer les institutions européennes dans la campagne pour tenir l'idée que c'était l'ETA. Il y a eu, par exemple, des informations qui se révèlent fausses, d'après lesquelles Europol, l'agence de coopération policière européenne, pensait à l'ETA. Il y a eu des efforts qui n'ont pas réussi pour que l'OTAN ou quelques institutions européennes parlent aussi de l'ETA. Donc, on a eu, disons, d'une façon secondaire, mais aussi indirectement à Bruxelles, cette bataille est arrivée aussi.
Oui, c'est vrai qu'au début, avec la détention de ces terroristes de l'ETA dans un train, et après aussi que c'est vrai que c'était une période dans laquelle l'ETA était très active en Espagne, on pouvait forcément penser que c'était eux, juste pour habitude, au moins. Mais l'enquête révéla plus tard que ces attaques furent l'œuvre du groupe djihadiste de Al-Qaïda à travers un groupe très fourni, composé principalement de ressortissants maghrébins.
Une cassette avec des versets du Coran en arabe et 7 détonateurs ont été retrouvés dans une camionnette volée près de Madrid, à l'endroit d'où partaient les trains visés par les explosions.
Les médias espagnols, français et internationaux avaient déjà informé dans les premiers 2 jours de certains indices qui pointaient dans une direction autre que l'ETA, des indices mais aussi des possibles motifs.
Dernier indice, Al-Qaïda a un mobile. L'Espagne est aux côtés des États-Unis depuis le début de la guerre en Irak. Plus d'un millier de soldats ont été envoyés par Madrid. Et en novembre dernier, 7 membres des services secrets ont péri dans une embuscade.
Antonio, quelles étaient tes impressions au fur et à mesure que l'investigation avançait ?
Je pense que c'est les impressions que n'importe quelle personne qui ne soit pas, disons, impliquée politiquement et d'une façon ou d'une autre peut avoir. Il y avait la sensation, à fur et à mesure que cette information se révélait, qu'évidemment, tout signalait dans une autre direction et que le gouvernement était en train d'essayer de maintenir une version pour des intérêt politique. Et en même temps, la sensation que ça pouvait avoir un effet, comme ça a été le cas probablement, on ne peut pas faire la politique fiction, mais comme ça a été le cas probablement dans les élections du dimanche. Et je le voyais tout d'une certaine distance, encore une fois, parce que j'étais dehors. Mais j'ai vu, par exemple, des colères qui étaient à Bruxelles et qui étaient indignées par les stratégies suivies par le gouvernement dans ces jours-là. On prit l'avion pour pouvoir voter dimanche, vous voyez.
Waouh. Donc, bah oui, il y avait un sentiment de trahison à ce moment-là aussi, j'imagine.
Tout à fait, tout à fait. Et je crois que c'était plutôt cette indignation, parce qu'après, il y a eu aussi des lectures d'après lesquelles tout le problème, c'était que l'Espagne était en Irak. Et je crois, mais je ne peux pas jouer aux sociologues, mais mon impression à ce moment-là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté contre les partis populaires ou pour les socialistes, parce qu'ils se sentaient mentis, pas parce qu'il responsabilisait de l'attentat, mais parce qu'il il y avait un certain sentiment d'indignation sur cette méchance-là. Ouais.
Mmh. Justement, le gouvernement d'Aznar est accusé de mentir pour tenir le coup jusqu'aux élections, prévues pour 3 jours plus tard. Cependant, la réalité est beaucoup trop lourde et beaucoup trop évidente.
El gobierno nunca mintió.
Nous venons d'écouter Ángel Acebes, celui qui fut le ministre de l'Intérieur lors du 11 mars 2004. D'après lui, le gouvernement n'avait pas menti. Pourtant, d'après l'ambassadeur espagnol à Washington, Francisco Javier Ruiz Pérez, le président américain George Bush avait déjà informé le gouvernement espagnol que ses services de renseignement signalaient l'islamisme djihadiste comme responsable des attaques dans une interview qui a été dévoilée il y a très peu de temps d'ailleurs.
El gobierno evidentemente también estaba convencido y se lo digo, ¿no? Entonces cuando él me dice pues me dicen mis servicios que a lo mejor han sido otros, ¿no?
Le 14 mars, après de mobilisations multitudinaires demandant vérité et justice, le Parti populaire perd les élections et le Parti socialiste arrive au pouvoir pour 2 législatures de suite. Le Parti populaire a payé son erreur pendant les 7 ans qu'ils ont tardé à reprendre le pouvoir en 2011 avec Mariano Rajoy.
Et 20 ans après, l'Espagne est un pays assez différent de celui qui a subi les attentats. Nous voulions terminer cette interview en vous demandant, Antonio Delgado, comment vous pensez que le 11 mars 2004 a changé la société espagnole ou notre façon de voir le monde ?
Je pense qu'il y a deux façons de répondre à cette question. Il y a d'abord l'analyse, disons, de la lutte, la culture antiterroriste, si on peut parler dans ces termes, que c'est vrai que il y a un événement initial qui est les attentats à Washington et New York qui ont marqué beaucoup l'agenda politique et sécuritaire partout dans le monde et en Europe, mais le fait d'avoir ces attentats aussi en Europe ont accéléré, par exemple, ils ont créé la figure du coordinateur antiterroriste, beaucoup de législation antiterroriste, la journée européenne des victimes de terrorisme qui est le 11 mars précisément, donc il y a eu un changement là-dessus, je crois pouvoir dire que ça a accéléré par exemple aussi la fin de l'ETA indirectement, parce que tout d'un coup, le terrorisme, c'était déjà inacceptable, mais ça a devenu encore plus difficile à tenir. Après, il y a tout ce qui a changé, la conséquence politique de l'11 mars, c'est effectivement l'arrivée d'un gouvernement socialiste avec un agenda aussi très différent, a changé beaucoup de choses. Si on pense par exemple à la situation en Catalogne, je ne vais pas établir responsabilité, mais c'est un fait que, d'une certaine façon, les procès indépendantistes en Catalogne est né de la frustration après la réforme de l'estatut en Catalogne, qui était une promesse du président Zapatero. Donc, toujours l'actualité de ces jours-ci en Espagne sur la possibilité d'une amnistie à Puigdemont, etc. De certaine façon, les récents sont aussi dans l'Ox Mars, vous voyez. Donc, c'est évident que c'est un événement qui a marqué le développement politique en Espagne d'une façon. C'est difficile de chercher quelque autre chose comparable. C'est vraiment un avant et un après.
Oui, je considère que c'est très pertinent de ramener des conséquences ou d'éventuelles conséquences que l'on sent aujourd'hui. Et pour ça et pour votre collaboration, nous vous remercions d'avoir apporté votre point de vue en tant que une personne qui était déjà en train d'exercer le journalisme à ce moment-là et qui était dans les domaines internationaux. Donc merci beaucoup, Antonio Delgado, correspondant de Radio Nacional d'Espagne à Paris en ce moment, pour votre intervention.
C'est moi qui vous remercie, c'est un plaisir. À très bientôt.
20 ans après, plusieurs personnes de premier rang dans cette matière ont fait des déclarations dans le cadre de ce malheureux anniversaire. Celui qui fut maire de Madrid lors des attentats se montre fier de la réaction de la citoyenneté.
Aquí había una convivencia ejercida con militancia. Querían romper esa convivencia, querían una reacción violenta, querían que hubiese marginación. No se produjo. Al contrario, la ciudad respondió con serenidad y siendo ese espacio de convivencia abierto y tolerante que siempre ha sido y que hoy, 20 años después, sigue siendo Madrid.
D'après Alberto Ruiz Gallardón, les Madrilènes n'ont pas répondu avec de la haine, mais tout le contraire. Ils se sont unis et ont montré l'unité face à la terreur. Fernando Grande Marlaska, actuel ministre de l'Intérieur, affirmait que c'est par l'unité et par la revendication des victimes que l'on s'impose au terrorisme.
La derrota del terrorismo comienza siempre cuando somos capaces de enfrentar el terror y de reivindicar a sus víctimas.
Le juge Baltasar Garzón était le responsable de l'instruction de l'affaire à la Audiencia Nacional, le tribunal de grande instance chargé des affaires de terrorisme. On aurait pu rechercher un peu plus et surtout destiner davantage de fonds.
Podía haberse evitado haber invertido más fondos en la estructura policial que se dedicaba al terrorismo yihadista.
Mais qu'a-t-il été des responsables de ces attaques? 7 d'entre eux se firent exploser le 3 avril 2004 alors qu'ils étaient encerclés par la police dans un appartement de la banlieue de Madrid, à Leganés plus concrètement. 18 autres furent condamnés, seuls 3 dont un Espagnol, celui qui a fourmi les explosifs, étant encore emprisonné.
20 ans après les attentats sanglants de Madrid, la menace djihadiste est toujours présente en Espagne. Sa structure a pourtant changé et a pris la forme de petits groupes indépendants ou d'individus isolés, d'après ce qu'estiment plusieurs experts. Le dernier rapport annuel sur la sécurité nationale estime que les acteurs solitaires et les cellules autoradicalisées constituent 20 ans plus tard la menace la plus importante pour l'Espagne et pour les pays occidentaux.
Selon ce document, il serait aujourd'hui plus compliqué de commettre des attaques terroristes à l'exécution complexe en Espagne, comme ceux du 11 mars. Parce que la capacité de l'organisation État islamique et d'Al-Qaïda à organiser des attentats en Europe a beaucoup baissé. Le niveau d'alerte antiterroriste se situe actuellement en Espagne, au 4e échelon sur une échelle de 5. Les derniers attentats djihadistes d'envergure enregistrés dans le pays remontent à août 2017, lorsque 16 personnes ont été tuées en Catalogne.
3 attaques de nature djihadiste ont eu lieu depuis, en 2018, en 2021 et en 2023, faisant 2 morts en tout. Dans les 3 cas, il s'était agi d'actes individuels.
Entre 40 et 60% de los actores solitarios tenían problemas de salud mental, serios problemas de salud mental, antes de implicarse en actividades terroristas.
Pour Fernando Reynares, spécialiste du djihadisme et auteur de 3 livres sur le 11M, ce sont ceux que l'on attribue à des loups solitaires. Des attaques ayant l'apparence de coups de folie ou de vengeance personnelle, presque sans préparation ni arme à feu.
Il ne faut pas baisser la garde parce que l'une des caractéristiques du mouvement djihadiste mondial et de la menace terroriste qui lui est inhérente, c'est sa grande capacité à muter et à s'adapter en permanence au nouveau contexte. Par exemple, celui très mobilisateur de la guerre à Gaza, un thème qu'elle qualifie de très sensible.
La menace du terrorisme djihadiste est considérable.
Pour lui, la menace du terrorisme djihadiste reste considérable en Espagne.
Les últimos años, España está entre los 3 países europeos sistemáticamente. Entre los 3 países europeos que más operaciones contra el terrorismo yihadista conduce y más detenciones de sospechosos de actividad yihadista lleva a cabo.
La preuve, disait-il, lors d'un récent débat sur ce thème organisé à Madrid par l'Institut Royal Elcano, est qu'en Espagne figure systématiquement parmi les 3 pays européens qui conduisent le plus d'opérations contre le terrorisme djihadiste et qui procèdent au plus grand nombre d'arrestations de suspects.
Plus de 1000 arrestations en 20 ans. En 2004, en plus de la menace djihadiste, l'Espagne était encore confrontée à celle de l'organisation séparatiste basque ETA, créée en 1959 et tenue pour responsable de plus de 850 morts. Mais depuis l'annonce en 2011 par l'ETA de l'abandon de la lutte armée et son auto-dissolution 7 ans plus tard, la menace principale, pour ne pas dire unique, est celle de l'islamisme radical. Depuis les attentats du 11 mai, l'Espagne a ainsi arrêté 1047 suspects d'activités djihadistes au cours de 408 opérations selon de chiffres officiels.
Parmi les changements observés ces 20 dernières années figure le profil de l'aspirant au djihad, désormais plus jeune, souvent né en Espagne et évoluant sur Internet plutôt qu'ayant des contacts physiques avec des co-religionnaires. Il s'est d'abord produit un rajeunissement relatif des radicalisés. Francisco José Vázquez est le colonel de la Guardia Civil.
Y sobre todo el último año, año y medio, pues nos está preocupando infinitamente el acceso que esa propaganda y el destino que esa propaganda de estas organizaciones tiene en los menores.
Parmi les militants qui adhèrent au djihad mondial, les moins de 18 ans constituent l'unique groupe démographique dont la proportion a augmenté au cours de la dernière décennie et préoccupe notamment les autorités, poursuit-il.
Y ese vehículo de radicalización tiene que ver con el espacio virtual.
L'autre changement majeur, c'est que les espaces virtuels, c'est-à-dire l'Internet et les réseaux sociaux, sont plus que jamais le principal endroit où a lieu la radicalisation. La lutte contre la terreur continue et continuera, mais les forces de l'ordre en Espagne sont de plus en plus prêtes à y faire face et sont devenues un exemple à suivre pour le reste de départements antiterroristes des polices des États européens.
Merci Antonio Delgado pour sa participation et notre sincère condoléance aux victimes du 11 mars 2004. La mémoire reste implacable et perdure dans le temps.
Nous écoutons la chanson « What was I made for » de la chanson gagnante du Oscar pour Billie Eilish, une chanson interprétée qui lui a valu, comme on disait, son deuxième Oscar à 22 ans. What was I made for? Taking a drive, I was an ideal, not so alive. Turns out I'm not real, just something you paid for. What was I made for? 'Cause
something I'm made for.